Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Claude Mabéa.
Il est 12h à Ebimpe, c'est dans la commune d'Anyama. C'est la même heure à Korogo et à Yamoussoukro. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal de 12h sur Radio de la Paix. L'actualité nationale est marquée par les préparatifs de la CAN 2023. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begremambe, en visite à Ebimpe hier, mardi, a exhorté les populations de la localité à se mobiliser pour l'organisation parfaite de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu en début de ce journal de César Yao. Le projet de loi portant statut général de la fonction publique a été adopté hier par le Sénat à Yamoussoukro. 300 jeunes volontaires seront formés dans le cadre de la lutte contre leur fragilité dans les zones nord du pays. Les éclairages du sous-directeur de la communication de l'Office du service civique national dans cette édition. Hors de Côte d'Ivoire, en Syrie, une attaque meurtrière de l'État islamique contre les forces du régime a fait 30 morts ce mercredi à l'aube. Et puis en fin d'édition, le colonel Aké Danho Stéphane, chef du bureau d'accompagnement à la conversion des militaires, reviendra avec Jean-Noël Kwame sur le rôle de cette structure de l'armée ivoirienne. Ça sera dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begremambe, a exhorté hier mardi les populations d'Ebimpe à se mobiliser pour la parfaite organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et la chefferie dit avoir compris le message du chef du gouvernement et promis de l'aider dans ce sens. César Yao a suivi les différents échanges, son compte-rendu.
Robert Begremambe a saisi cette rencontre d'échange avec la population et la chefferie pour traduire la gratitude de toute la nation et la reconnaissance du gouvernement au village d'Ebimpe pour avoir accepté de donner ses terres pour la réalisation du stade olympique Alassane Ouattara.
C'est de demander aux femmes, aux jeunes, aux doyens de se mobiliser tous pour que la grande ferveur soit servie à cette grande compétition. Par conséquent, je demande à nos parents, les chefs, les femmes, les jeunes, d'en faire leur affaire. Prenez cela en main.
Mondon Alsepa, comme chef du village d'Ebimpe, a par la suite soutenu que la visite de Robert Begremambe avait un sens symbolique et a assuré le chef du gouvernement que le village d'Ebimpe et tous les villages environnants attachent un prix à la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
Le village d'Ebimpe qui a cédé 287 hectares pour la construction du stade et de la cité olympique attache du prix à cette marque de fraternité qui le rassure. Ebimpe, c'est la terre de tout. L'impossible.
Après cette rencontre, le Premier ministre Robert Begremambe était en compagnie de responsables d'entreprise du Bénin et des ingénieurs qui sont sur le chantier pour déterminer des repères de date pour la finition des travaux en cours.
On s'intéresse maintenant à la vie des institutions. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était face aux députés hier mardi pour présenter et faire adopter son budget qui s'élève à 399 milliards de francs CFA. Une idée de l'affectation de ce budget avec Tene Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense.
À l'orée de l'année 2024, de nombreuses incertitudes demeurent du fait de la dégradation de la situation sécuritaire de la sous-région. Les conséquences des récents changements de régime politique opérée par voie non constitutionnelle dans les pays de la CEDEAO, le retrait des forces d'interposition entre les belligérants au Sahel, la montée du terrorisme sont autant de facteurs qui pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives de paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Face à ces défis auxquels la Côte d'Ivoire se trouve confrontée, le ministère d'État, ministère de la Défense s'est résolument engagé à œuvrer pour doter notre pays d'un outil de défense suffisamment fort pour contrer toute menace pesant sur la stabilité économique et la sécurité de nos concitoyens. Il s'agit d'acquérir de nouveaux équipements dédiés au renseignement, d'intensifier la lutte contre le terrorisme par le renforcement du contrôle et la surveillance de nos frontières, de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et des gendarmes, d'accroître les mécanismes de riposte contre le grand banditisme et les menaces sécuritaires. Ces actions ont pour objectif majeur la préservation d'un climat de quiétude au profit des populations vivant sur le territoire et surtout la facilitation des actions du gouvernement pour la poursuite des projets de développement socio-économique et pour le respect de ses engagements, notamment l'organisation de la CAN 2024.
Les propos de Tene Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, ont été recueillis par Junior Cardin. De l'Assemblée nationale, on se rend au Sénat à Yamoussoukro, où la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a adopté hier également, à l'unanimité de ses membres, le projet de loi portant statut général de la fonction publique. Projet de loi présenté par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oulouto, a exprimé sa satisfaction au thème des travaux eu égard à l'adoption de ce projet de loi qu'elle qualifie d'extrêmement important pour la fonction publique ivoirienne. On l'écoute.
Je voudrais remercier l'ensemble des vénérables sénateurs qui ont compris l'enjeu de cette nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Il s'agit là d'une loi qui encadre la gestion de la carrière de nos fonctionnaires, depuis le recrutement jusqu'au départ à la retraite. C'est un texte extrêmement important qui encadre les droits, les obligations et les devoirs du fonctionnaire. À travers l'adoption de cette loi, le Sénat consacre le principe donc de l'amélioration de certains droits de nos fonctionnaires qui étaient déjà pris en compte dans l'ancien statut général de la fonction publique, celui de 1992, qui n'est plus adapté aujourd'hui. Au-delà de ces premiers droits qui sont désormais améliorés par le nouveau statut général de la fonction publique, nous pouvons saluer l'avènement de nouveaux droits qui sont accordés à nos fonctionnaires. Et celui que j'aime le plus, c'est le droit à la formation professionnelle, qui permettra à d'autres administrations d'être une administration publique performante, efficace, grâce à la formation continue des fonctionnaires. C'est extrêmement important. Il y a également un nouveau droit, c'est le congé parental qui permettra aux fonctionnaires de s'occuper de leurs enfants quand il y a nécessité. Et c'est une grande avancée.
Anne-Désirée Oulouto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, était au micro Radio de la Paix d'Emile Yao. L'actualité nationale, c'est aussi la lutte contre le terrorisme. L'État, à travers le ministère de l'Emploi, met en place un projet de formation de 300 jeunes volontaires des régions du nord du pays pour les instruire sur la question. Sekou Sidibé, sous-directeur de la communication de l'Office du service civique national, nous en dit plus sur le projet.
Un programme lancé l'année passée par le gouvernement qui, à côté de la réponse militaire pour la lutte contre le terrorisme, a décidé d'ajouter un volet social. Parce que justement, le constat qui est fait dans les autres pays, c'est qu'on arrive à enrôler facilement les populations parce qu'elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité économique généralement ou parce qu'elles n'ont pas forcément d'occupation. Donc cette initiative, notamment le volet volontariat, c'est pour pouvoir occuper ces jeunes de façon saine, mais en même temps les former pour pouvoir porter des messages d'intérêt. Le projet en général, c'est plusieurs actions menées par le ministère. Donc, il y a les stages de formation, les financements des projets, des activités génératrices de revenus, des requalifications, et il y a le volet service civique. Donc, l'État a décidé effectivement de pouvoir mener plein d'initiatives en faveur des populations de ces zones-là, mais surtout pour les jeunes. Il y a le volet insertion, formation et service civique qui prend en compte l'engagement communautaire à travers le volontariat et le bénévolat. Donc la tournée qui a lieu actuellement, c'est pour aller former ces jeunes sur le civisme, la citoyenneté, leur expliquer le contexte du terrorisme, du djihadisme et tout ça, et les comportements adoptés pour qu'eux aussi soient des vecteurs de transmission de ces informations-là.
Sekou Sidibé, le sous-directeur de la communication de l'Office du service civique national, a été joint par Christelle Yessou. On prend la direction de la région du Poro où, à la faveur de la triple cérémonie de rentrée judiciaire solennelle, de présentation de deux nouveaux magistrats et de la prestation de serment de ces derniers, le procureur général près la cour d'appel de Korogo, Kone Souleyman, a dressé le bilan des activités de cette cour. Un bilan qu'il juge positif du fait du rapprochement entre les populations et la cour d'appel de Korogo. Il apporte ici plus de précisions au micro Radio de la Paix de Marcel Bonny.
Il y a quatre cours d'appel en Côte d'Ivoire et nous sommes la dernière née de ces cours d'appel-là. Et en termes de bilan, nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan est très satisfaisant parce que par le passé, nos compatriotes vivant dans les quatre régions que constitue notre ressort territorial, je parle de la région du Poro, du Tchologo, de la Bagoué et du Denguele, étaient obligés d'aller jusqu'à Boaké lorsqu'ils relevaient appel ou ils exerçaient leur voie de recours. Donc ça faisait que certaines personnes, compte tenu de la distance et de commodité à prendre en place à Boaké, laissaient tomber leurs droits alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Aujourd'hui, la cour d'appel s'est rapprochée des populations de ces quatre régions septentrionales. Et de sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à saisir la cour d'appel de Korogo, puisque en termes de gains, ils gagnent forcément. En temps, en numéraire, ils voient leurs affaires jugées dans des délais raisonnables. Pour notre part, nous faisons l'essentiel pour satisfaire les populations qui sont dans notre ressort territorial. Très bientôt d'ailleurs, nous aurons une journée porte ouverte au sein de la cour d'appel. Pour faire connaître davantage la cour d'appel, il faut que de plus en plus, on se rapproche des populations.
C'était Kone Souleyman, le procureur général près la cour d'appel de Korogo. On parle sécurité routière à présent. Les agents de la police municipale de la commune de Cocody ont été instruits hier mardi sur la stratégie nationale de la sécurité routière, l'occupation anarchique des trottoirs et l'importance de l'entretien de la voirie. Cette séance de sensibilisation initiée par la direction régionale des transports des lagunes et l'office de la sécurité routière Auxerre s'inscrit dans le cadre de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière qui se tient du 3 au 10 novembre 2023. Et cette fois-ci, elle a axé ses activités sur les collectivités. Sur les objectifs et les raisons du choix des agents municipaux, écoutons les explications de Sako Brahima, le directeur régional des transports des lagunes.
Aujourd'hui, quand nous sommes sur les voies, souvent congestionnées, on a une floraison donc de petits marchands qui sont sur les voies. Cela constitue pour nous un risque. La route est un espace de partage et l'espace pour le commerce n'y est pas. Et donc tout ça, il est important que l'autorité principale concernée puisse prendre le taureau par le corne. On va juste leur donner donc l'élément essentiel, une prise de conscience pour que tu puisses se mettre à la tâche.
Quel lien il y a entre cette activité puis la CAN qui va être organisée très bientôt?
Et ça tombe bien, nous sommes pratiquement à la veille de la CAN, ça va profiter d'organiser un temps soit peu la circulation donc au niveau d'Abidjan. Qui dit la CAN, il aura une certaine mobilité, il aura des populations nouvelles qui vont arriver. Donc il est plutôt intéressant que de connaître Abidjan dans les livres, mais Abidjan, du concret, il faut qu'on soit vraiment rassuré de tout ce qui est comme propriété. En fait, nous intervenons pour un peu améliorer la qualité, l'occupation donc des voiries. Les collectivités doivent être informées, sensibiliser sur leurs tâches. Maintenant, vous savez aussi que relativement aux voiries, on a des voiries qui ne parlent pas. Une route, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle parle. Donc, il faut des signalisations. Tout ça, c'est pour un peu titiller l'autorité, la collectivité, pour qu'ils puissent vraiment améliorer donc, l'espace vital.
À noter que toutes les 13 communes du district d'Abidjan seront visitées par cette équipe de sensibilisation de la direction de la direction régionale des transports des lagunes. Actualité en Syrie, 30 membres des forces pro-régime ont été tués lors d'une série d'attaques simultanées menées ce mercredi à l'aube par le groupe État islamique dans le vaste désert syrien où se cachent ces militants, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme aux journalistes de l'AFP. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan est appelé à s'alourdir, certains des blessés se trouvant dans un état grave. Retour sur le continent africain où l'Union des journalistes de la presse libre africaine, l'UJPLA, désapprouve les sanctions faites à la presse par la junte burkinabé. Alors qu'elle vient d'envoyer un journaliste au front, les associations de presse panafricaines s'expriment. Écoutons à cet effet Noël Yao, président de l'UJPLA.
Toutes les personnes qui expriment un point de vue différent, divergent de celui de la junte au pouvoir sont mis à l'index, et cette façon d'envoyer des leaders d'opinion, des activistes, des journalistes au front est donc la sanction qu'on impose aux gens qui expriment un point de vue divergent. C'est une forme de musulmans, de promotion de la pensée unique. L'UJPLA condamne cette atteinte à la liberté de la presse. Et donc, se solidarise avec les organisations du Burkina qui ont émis un communiqué de désapprobation et de condamnation de cette façon d'envoyer des journalistes, des activistes, des leaders d'opinion sur le front de bataille. Il faut dénoncer cette façon plus ou moins martiale et cavalière d'embastiller des journalistes et la condamnation énergique, ferme de ces réquisitions à répétition et de toutes les atteintes à la liberté de la presse depuis un certain temps au Burkina Faso par la junte militaire.
C'était Noël Yao, le président de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Nous arrivons au dernier temps fort de cette édition, l'invité de la rédaction, le colonel Aké Danho Stéphane, chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, reviendra donc dans quelques instants avec Jean-Noël Kouamé sur le rôle de cette structure de l'armée ivoirienne. Ce sera donc dans le cadre de l'invité de la rédaction. Entretien.
Bonjour, colonel Aké Danho Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes le chef du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires BARM. Quelles sont les activités que mène ce bureau d'accompagnement et de reconversion?
Le BARM existe depuis 2018. Il fallait mettre en place d'abord tout ce qui a trait au fonctionnement, procéder au recrutement du personnel qualifié pour animer le bureau. Nous avons inséré bon nombre de militaires dans des emplois du secteur privé, des emplois salariés de la fonction publique et aussi dans l'auto-emploi.
Alors quand vous dites réinsérer dans le secteur privé, public, c'est exactement où et qu'est-ce qu'ils font par exemple?
En ce qui concerne la fonction publique, nous bénéficions d'un décret portant reconversion des militaires et gendarmes. Ce décret est dans sa phase d'application. Cette année 2023, nous avons pu insérer près de 249 militaires dans des emplois de la fonction publique, les eaux et forêts, la police maritime et les gardes pénitentiaires. En ce qui concerne les entreprises privées, un bon nombre de nos infirmiers sont insérés dans notre compagnie de transport urbain. Il y a l'Office du service civique national qui emploie grand nombre de nos militaires à l'encadrement des cohortes mises à la disposition. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat, 94% de nos demandes, nous avons un dispositif très abouti qui permet un accompagnement à l'entrepreneuriat et une mise à disposition de fonds pour ceux qui en ont besoin et un suivi pour pérenniser les projets de nos bénéficiaires.
Alors, je suis un militaire, je souhaite me reconvertir dans une activité. Quelles sont les conditions? Quelles sont les dispositions à prendre?
On parle de reconversion des militaires en cessation d'activité. Donc, il faut être militaire à la retraite. Tout militaire radié de l'effectif ou problème disciplinaire n'a pas droit à une reconversion. Soit vous partez par départ volontaire, soit vous partez à la limite d'âge statutaire, 55 ans pour les militaires du rang et les sous-officiers, et à partir de 57 ans pour les lieutenants-colonels et ça varie jusqu'aux généraux. Ceux qui vont pour des questions de santé sont pris en compte dans le dispositif et donc vous vous inscrivez au BARM pour commencer un pré-profilage. Nous vous appelons et nous vous inscrivons soit pour les emplois secteur privé, c'est des offres que nous recevons des entreprises privées partenaires que nous avons. En ce qui concerne la fonction publique, nous appuyons sur vos capacités, vos qualifications pour pouvoir faire des demandes d'intégration. Le décret balise les conditions d'accès à la fonction publique pour les militaires en fin de carrière.
Alors, mon colonel, qu'est-ce qui est mis en place pour assurer justement à ces militaires bénéficiaires une reconversion durable et garantir une bonne utilisation des fonds sont mis à leur disposition.
Pour la création d'entreprise, c'est le bénéficiaire lui-même qui choisit. Il peut être en possession de lui-même ses fonds, nous faisons l'accompagnement et lui-même créer son entreprise. S'il veut des fonds, nous avons un partenaire financier qui octroie ses fonds sous forme de prêt. En ce qui concerne les emplois salariés, nous participons au renforcement des capacités pour pouvoir permettre de pouvoir être intégré dans certaines entreprises. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est vu la pertinence du projet que la commission en interne au niveau du BAM accorde le crédit. Nous insistons sur le suivi du projet, un suivi de 2 ans pour garantir la pérennité des activités, la pérennité de l'emploi de nos bénéficiaires.
Quels sont justement les secteurs d'activité ouverts à cet effet et quels sont les niveaux de financement disponibles pour les militaires candidats à la reconversion?
Les projets actuellement vont de 2 millions à plus de 10 millions. Ces fonds ne sont pas forcément plafonné. En ce qui concerne l'auto-emploi, nous avons tous les secteurs d'activité. Nous avons des partenaires techniques qui nous accompagnent, notamment la NADER dans tout ce qui est agriculture agro-pastorale, l'AGFOP pour tout ce qui est artisanat, l'INIE et la plateforme de services qui nous accompagnent pour tout ce qui est commerce, transport. L'agro-pastoral est très prisé par nos bénéficiaires, tout ce qui est élevage de volailles et de porc. Même dans le bâtiment, nous avons certains bénéficiaires qui sont entrepreneurs.
Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous aurez par exemple des chiffres de militaires bénéficiaires ou candidats dans le processus?
Nous comptons d'ici la fin de l'année 2024 accompagner dans le domaine de l'entrepreneuriat 2000 militaires. Depuis 2022, nous allons lancer la première cohorte de 1379 militaires. Nous lancerons à partir du mois de novembre la deuxième cohorte pour atteindre 2024 avec les 2000 à reconvertir.
Alors avez-vous justement des success stories, des histoires de militaires ayant réussi leur reconversion?
Oui, effectivement, le premier, il a modernisé son atelier de photographie avec des appareils numériques de génération. Le deuxième, fondateur d'école, a augmenté ses capacités d'accueil au niveau des classes. Le troisième, à l'intérieur du pays, a pu, lui, agrandir son motel. Il y a plusieurs cas comme ça. Tous les militaires en fin de carrière et même encore en activité, la reconversion professionnelle est une nécessité. Il faut y penser. C'est une aubaine que l'État de Côte d'Ivoire donne à nos militaires pour réaliser les rêves, avoir une bonne retraite. Nous ferons tout ce qui est notre possible pour accompagner au mieux les militaires dans leurs rêves.
Merci infiniment, colonel Akédao Stéphane.
Je vous remercie.
Voilà, cet entretien met un terme à cette édition de 12 heures, le rappel de l'essentiel. Préparatif de la CAN 2023, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begremambe, en visite à Ebimpe hier mardi, a exhorté les populations de la localité à se mobiliser pour l'organisation parfaite de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant statut général de la fonction publique a été adopté hier par le Sénat à Yamoussoukro. En Syrie, une attaque meurtrière de l'État islamique contre les forces du régime a fait 30 morts très tôt ce matin. C'est donc ici qu'on s'arrête pour ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité, 15h. Mais avant, Jean-Claude Comet vous propose la revue des titres sur la revue de presse. Excellent début d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute de Radio de la Paix.
Bonjour à tous.